Comme les meilleurs parents du monde, garantissez la scolarité de vos enfants quoi qu'il vous arrive avec l'assurance éducation. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Cela fait donc plus d'un an que l'Est de la République démocratique du Congo est confronté à une épidémie d'Ebola, Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu depuis 3 semaines, depuis que des premiers cas ont été répertoriés dans la zone de Mwenga. Une épidémie qui s'inscrit donc dans la durée. Elle est considérée comme une urgence sanitaire mondiale par l'OMS depuis le 17 juillet. Ebola a fait sur place ces 13 derniers mois 2050 morts pour plus de 3000 cas, avec plus de 900 guérisons recensées officiellement. Au-delà des chiffres, depuis le déclenchement de cette 10e épidémie sur le sol congolais, on souligne son caractère atypique comme les nombreux défis qu'elle pose. En raison de sa localisation dans une zone particulièrement sensible, théâtre de violences et de déplacements de population, une zone où le contexte politique complique l'organisation et l'efficacité de la riposte et place les équipes engagées dans la lutte contre la maladie face à la défiance de certains habitants comme à la multiplication des rumeurs. Ces dernières semaines, plusieurs changements notables sont intervenus, l'urgence mondiale on l'a dit, mais aussi de rares cas importés répertoriés en Ouganda, changement aussi du côté de la Direction nationale de la riposte, désormais confiée au docteur Jean-Jacques Mouyembe, lui-même qui, il y a plus de 40 ans, avait co-découvert ce virus Ebola. Au cours de cette émission, nous reviendrons sur cette actualité. Nous évoquerons la prévention, la campagne de vaccination, les questions entourant les vaccins, l'annonce de nouveaux traitements qui s'ajoutent à plusieurs déjà disponibles et à la prise en charge sur place. Et avec nos invités, nous tenterons de répondre au mieux à vos questions. Ebola dans l'Est de la RDC, épidémie singulière, complexe dans une région très sensible, lutte conjuguée contre le virus et la désinformation. Avec nos invités ici à RFI, les acteurs de terrain que nous joindrons au cours de l'émission. Avec nous en studio, professeur Arnaud Fontanet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur, professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers. On vous retrouve aussi, docteur Alain Epelboin, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes médecin anthropologue au CNRS et avec nous, Sonia Rollet, bonjour.
Bonjour.
Les auditeurs vous connaissent bien du service Afrique de RFI. Avec vous tout à l'heure, retour sur le déroulé des événements depuis que l'épidémie a été décrétée urgence sanitaire mondiale. À Goma, on va tenter tout à l'heure d'entrer en contact avec le docteur Justus Nsio, coordinateur général adjoint de la riposte contre Ebola dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Acteur communautaire, citoyen mobilisé, nous vous donnerons la parole au 33 84 22 75 75. Épidémie dans la durée, puisque c'est en effet la 3e émission que l'on consacre à ce virus dans l'Est de la RDC. Toujours énormément de questions, beaucoup d'informations pour décrire les faits, expliquer où en est la riposte. Mais comme toujours dans Priorité Santé, on commence par les bases, informations basiques. Ebola, maladie émergente, virus, urgence sanitaire mondiale. Professeur Fontanet, bien sûr, pour commencer, les symptômes et les modes de transmission.
Alors, le virus Ebola, les manifestations cliniques vont apparaître à peu près 10 jours après le contact infectant. Au début, c'est un peu une grippe, avec fatigue, fièvre, des douleurs musculaires. Se rajouteront assez vite, et peut-être en contexte épidémique, cela doit alerter les médecins, des symptômes type vomissement et diarrhée. Et après quelques jours, chez les patients qui vont avoir une évolution défavorable, se rajoutent des hémorragies, pouvant entraîner la mort.
Du côté de la transmission.
Alors pour la transmission, c'est le contact avec ce qu'on appelle les fluides corporels infectés qui vont être à l'origine de la transmission. Ce seront les personnes qui vont prendre en charge ces patients, qu'il s'agisse de la famille ou qu'il s'agisse du personnel soignant, qui, notamment dans la phase avancée de la maladie, au contact des diarrhées, des vomissements, du sang éventuellement, vont pouvoir s'infecter.
Avec une infection possible post-mortem, c'est-à-dire une fois que le patient a succombé, justement, quand on n'a pas pu justement faire quelque chose pour éviter cette issue fatale.
Alors, notamment, effectivement, au moment du nettoyage du corps, qui peut survenir, par exemple, dans des rites funéraires, il y a un risque de contamination de la famille qui sera au contact des fluides corporels du patient qui vient de décéder.
Alors, toute maladie a tout son ressenti psychologique dans la communauté. Docteur Alain Epelboin, cette perception, on le sait depuis la nuit de temps, c'est toujours un obstacle à la prise en charge de certaines pathologies. Est-ce qu'on peut dire que c'est encore plus flagrant dans le cas d'Ebola ?
Mais jusqu'à présent, les épidémies d'Ebola, c'était un mal qui répandait la terreur avec des réactions psychologiques qu'on connaît depuis l'histoire de l'humanité, plus des spécificités africaines. Plus maintenant les films d'épouvante mondiaux qui créent une espèce d'imaginaire commun. Et là, la particularité, c'est qu'on est dans une zone de terrorisme et de guerre qui rend les choses totalement épouvantables. Et comme d'habitude, des régions abandonnées par l'État, des minorités ethniques qui se sentent opprimées, et ce dont on parle pas suffisamment... des gens d'en bas qui sont pas forcément représentés dans ce qu'on dit être la société civile ou les communautés, des petites vendeuses au marché ou autres, qui ne sont pas mobilisés, des jeunes qui ne sont pas organisés, qui se révoltent contre la gérontocratie et qui du coup usent des drames d'Ebola pour exprimer leur colère.
Exprimer la colère tout aussi en essayant de lutter, là c'est aussi dans le cadre de cette riposte, lutter contre les rumeurs, contre la désinformation. On le voit depuis le début, c'était le cas aussi pour les autres épidémies, mais peut-être là encore plus, docteur Alain Epelboin, cette désinformation qui va contre la prise en charge.
Mais la désinformation est venue en montant. Moi, j'interviens depuis les années 2003. Maintenant, avec Internet, les réseaux sociaux, les rumeurs de désinformation circulent avec une facilité absolument extraordinaire et ont parole d'évangile.
Avec des difficultés justement pour rétablir la bonne information, pour lutter contre les craintes. Et puis dans le cas particulier, professeur Arnaud Fontanet, de cette lutte contre Ebola, il y a quelque chose qui est très important. On a parlé tout à l'heure de ce contexte de violence, d'insécurité, déplacement de population. Ce qui est important, c'est de suivre les malades, de suivre les contacts pour éviter, pour essayer justement de bloquer l'épidémie. Et dans ce contexte, justement, ce suivi des contacts est particulièrement difficile.
Alors la prise en charge des épidémies d'Ebola depuis la première 1976 a consisté à isoler les patients pour d'une part éviter qu'ils contaminent leurs contacts et puis également les prendre en charge et suivre leurs contacts pour voir si sur une période de 21 jours ils vont développer la maladie. C'est ce qu'on appelle la quarantaine. À ces mesures se sont rajoutés récemment des outils type le vaccin qui peut être donné au contact et dont on sait qu'il est efficace. Et pour la prise en charge des patients, des nouveaux traitements qui, s'ils sont donnés très tôt, peuvent également nettement améliorer le pronostic. Néanmoins, la mise en place de ces nouveaux outils est rendue extrêmement difficile dans un contexte de défiance où les patients ne vont pas se présenter suffisamment tôt dans les centres de santé, alors que s'ils étaient pris en charge très tôt, on aurait eu des bonnes chances de les guérir. Et eux aussi, parce qu'ils restent clandestins, entre guillemets, ils vont contribuer à la propagation. Donc on a finalement les outils, j'ai envie de dire, pour une bonne riposte, mais le travail de fond à faire, c'est rétablir la confiance, parce que sans la confiance, on ne pourra rien faire.
Alors, on va partir dans quelques instants pour la RDC. Professeur Arnaud Fontanet, encore une chose. 10e épidémie au Congo. Pourquoi la RDC ? Pourquoi si souvent Ebola qui vient et revient en RDC ?
Alors, Ebola, comme beaucoup d'autres maladies émergentes, est ce qu'on appelle une zoonose. C'est une infection qui est transmise par des animaux à l'homme. Pour Ebola, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le réservoir est très vraisemblablement une chauve-souris frugivore et des animaux qui font le rôle de ce qu'on appelle des hôtes intermédiaires entre ces chauves-souris et l'homme sont notamment les grands singes et les antilopes. Donc ces régions de République démocratique du Congo sont habitées par des animaux qui sont infectés et qui donc favorise le passage aux communautés humaines. Avant chaque grande épidémie d'Ebola humaine, on trouve souvent une épidémie, notamment chez les grands singes.
On va dire qu'il y a d'abord un cas de transmission de l'animal à l'homme et ensuite cette infection interhumaine.
Voilà, c'est la caricature un peu du démarrage des épidémies. On ne retrouve pas nécessairement toujours cette transmission animal-homme, mais ça a été le cas dans un certain nombre d'épidémies depuis qu'on connaît cette maladie en République démocratique du Congo.
Et on part tout de suite pour Goma.
RFI à Goma, 98 FM.
On vous retrouve, docteur Justus Ntio, bonjour. Docteur Ntio, bonjour.
Bonjour.
Alors, il y a un long temps entre ma question et votre réponse. On va s'y adapter. Vous êtes coordonnateur général adjoint de la riposte contre Ebola dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Pour commencer, j'aimerais que vous nous brossiez un tableau assez général. Comment s'organise aujourd'hui la riposte à Goma? Quels sont les acteurs engagés sur le terrain et les structures de santé impliquées?
Merci beaucoup, madame, pour la question. J'en profite pour saluer tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment. La riposte s'organise avec une coordination nationale au niveau de Kinshasa sous la direction de la nouvelle structure qui a été mise en place, le secrétariat technique du comité multisectoriel. Et au niveau provincial, nous avons la coordination générale qui est basée à Goma. Et en dessous de cette coordination, nous avons les sous-coordinations qui sont au foyer épidémique.
Le travail se fait donc entre les le travail se fait entre les différents organismes internationaux, organismes donc humanitaires qui peuvent venir aussi intervenir dans certaines structures de prise en charge, l'OMS et vous-même. C'est vous qui avez la main finalement sur tous les autres acteurs. C'est bien cela?
En effet, oui, le ministère de la Santé, à travers le secrétariat technique et la coordination générale, donne les orientations. Et autour de nous, nous avons tous les partenaires des systèmes des Nations Unies et les partenaires des ONG de développement, les ONG de la société civile, ainsi que les structures sanitaires. L'effort que nous fournissons, c'est vraiment de pouvoir s'aligner avec les systèmes de santé, travailler avec les divisions provinciales de la santé, les districts de santé, ainsi que les formations sanitaires. Et le travail se fait autour des acteurs étatiques où tous les partenaires apportent leur appui.
En termes d'évolution, docteur Nsio, qu'est-ce que vous constatez pour Goma, hein, si on parle de Goma, cette ville centrale, cette ville clé dans la région, est-ce que le nombre de cas diminue? Est-ce que c'est stable ou est-ce que ça augmente?
Dans la ville de Goma, nous avons déjà dépassé 30 jours sans nouveaux cas, depuis le premier cas avait été notifié. Donc, dans la ville propre de Goma, nous n'avons pas de cas, nous n'avons pas de contacts. Tous les contacts ont été sortis de leur suivi. Et l'effort que nous faisons, parce que la ville de Goma est très stratégique, c'est celui de pouvoir la protéger contre toute nouvelle infection. Donc, on a mis en place des systèmes de contrôle et on fait un effort pour contrôler les mouvements des contacts pour que la ville de Goma ne soit pas touchée.
Alors, on le sait, hein, vu sa position sur la carte ville clé, vous l'avez bien souligné. Est-ce qu'il y a des contrôles aujourd'hui qui sont effectués à la frontière pour les personnes qui se rendent au Rwanda?
Oui. Nous avons eu des réunions et nous avons eu des concertations entre la RDC et le Rwanda, la RDC et l'Ouganda, pour renforcer justement ces contrôles. Et nous sommes tombés d'accord sur un certain nombre de partages d'informations et de critères. On a mis en place des systèmes avec contrôle des contacts. On a mis en place un système qui contrôle toutes les personnes qui ont été contacts au cas confirmé. Et le système marche très bien entre le Rwanda et la RDC au niveau des frontières.
On le sait, dans cette zone du pays, il y a des problèmes particuliers en ce qui concerne l'eau, l'accès à l'eau. Est-ce qu'à Goma aujourd'hui, docteur Nsio, on trouve dans les lieux publics suffisamment de points de lavage des mains, ce qui est donc préconisé par les autorités de santé?
Oui, madame, je pense que c'était un problème au départ, parce que l'eau entraîne même le choléra. Mais vous allez voir que même la tendance de choléra dans la ville de Goma a sensiblement baissé. Donc, en ce qui concerne la pénurie d'eau, il n'y en a pas. On a amélioré l'approvisionnement et la fourniture en eau dans des endroits et dans les cités. Et le point d'eau, il y en a suffisamment, surtout dans le lieu public, dans le lieu où les gens se regroupent. On a mis suffisamment de points d'eau et des points de lavage de mains qui sont ravitaillés à tout moment.
Il y avait encore des témoignages récents qui disaient que dans certains lieux, ça manquait un petit peu, que c'était pas tout à fait à la hauteur des attentes.
En effet, madame, lorsqu'on commence, on riposte, il y a toujours des problèmes qu'on corrige jour après jour. Mais aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus ces problèmes-là. Ces problèmes-là ont été évoqués quelques jours dans le passé, mais aujourd'hui, tous ces problèmes qui sont évoqués, qui sont découverts au jour le jour, les solutions sont trouvées.
Justement, en termes d'évolution de la riposte, hein, ce sera ma dernière question, docteur Justus Ntio. Qu'est-ce qui va mieux? Et qu'est-ce qu'il faut encore améliorer, surtout sur ce point, vers quoi on doit aller comme nouvelle attitude, nouvelle décision pour mieux faire face à la maladie? Et peut-être bien sûr un message à faire passer à la population.
Moi je pense que si vous regardez les tendances, depuis 3 semaines nous assistons à une tendance vers la régression du nombre des cas. C'est vrai que nous avons quelques points chauds, notamment la zone des Mandima, notamment la zone de Kalunguta dans la sous-coordination de Butembo. Alors, ce qui a été mieux fait, c'est la mise en place de la structure multisectorielle où plusieurs ministères participent maintenant pour la lutte contre Ebola. Comme vous savez, la zone où sévit maintenant l'épidémie, c'est une zone où il y a beaucoup d'insécurité. Donc avec l'implication du ministère de l'Intérieur, avec l'implication de la Force nationale, la sécurité s'améliore dans certaines zones et l'accès s'améliore. C'est vrai qu'on n'a pas encore atteint l'accessibilité dans les zones insécures à 100%, mais l'effort est en train d'être fourni et les villes qu'on ne savait pas pénétrer sont maintenant pénétrables, et ce qui montre que la tendance est en train de baisser de façon générale. Et ce qu'il faut dire à la communauté, c'est de pouvoir faire confiance à l'État congolais, de pouvoir faire confiance au système de santé. C'est vrai qu'il y a eu un problème de manque de confiance, de rupture de confiance entre la communauté et les structures étatiques. Mais maintenant, cette confiance-là se remet de plus en plus. Et même aujourd'hui, là où nous nous trouvons maintenant, nous sommes en pleine activité avec Son Excellence Monsieur le Gouverneur dans la ville de Bouéré-Mana, où vraiment on est en train de sensibiliser la communauté, et nous voyons que leur implication et l'appropriation de la lutte se fait de plus en plus. L'exemple typique, c'est la ville de Goma. Donc si vraiment les habitants de Goma n'avaient pas fait confiance, Goma allait flamber. Mais on a vu la communauté nous indiquer là où se trouvent certaines personnes contacts, et la riposte a répondu, voilà aujourd'hui Goma et n'a pas de cas.
Depuis 30 jours, et on suivra bien pour arriver à cette période clé des 42 jours pour déclarer justement le virus éteint localement dans cette ville de Goma. Merci beaucoup pour toutes ces informations, docteur Justus Ntio. Je rappelle que vous êtes coordinateur général adjoint de la riposte contre Ebola dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri.
Priorité Santé sur RFI.
On retrouve nos invités en studio à la suite de Priorité Santé. On parle d'Ebola dans l'Est de la RDC, situation qui évolue au fil des semaines, des mois. Professeur Fontanet, qu'est-ce qui peut justement déterminer que ce type d'épidémie s'installe, s'inscrive ou non dans la durée?
Alors, un des éléments nouveaux dans cette épidémie comparé aux précédentes, à la grande majorité des précédentes épidémies, c'est que maintenant des villes de taille très importante sont touchées. Des villes de plus d'un million d'habitants sont concernées. Et donc, on a changé de modèle des toutes premières épidémies d'Ebola qui survenaient dans des zones très reculées de ce qui était le Zaïre à l'époque et devenu la RDC, où il était finalement possible de contenir sur une population relativement limitée l'épidémie, à une épidémie qui s'installe dans des zones urbaines de très grande taille et où il est extrêmement difficile d'assurer le contrôle. Donc le risque que l'on voit maintenant émerger, c'est finalement un passage à ce que j'appellerais l'endémicité, c'est-à-dire qu'on sort du niveau épidémique, mais d'une infection, d'une maladie qui s'est installée et qui va ressortir régulièrement et pour lesquelles à chaque fois il faut déployer des efforts considérables pour éteindre ces nouveaux foyers qui s'allument. Donc on est vraiment face à une nouvelle situation qui concerne Ebola, mais aussi beaucoup d'autres maladies infectieuses émergentes, où maintenant, en Afrique centrale et dans d'autres zones tropicales, sujettes à ce type d'émergence. Les populations sont beaucoup plus denses, urbaines notamment, et beaucoup plus mobiles. C'est ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest, hein, quand l'épidémie d'Ebola était arrivée en Guinée, Sierra Leone et au Libéria, et où les capitales avaient été touchées assez rapidement, ce qui avait rendu le contrôle de l'épidémie extrêmement difficile. Il a fallu 18 mois pour éteindre cette épidémie-là.
Alors, on comprend bien toute cette adaptation à la maladie, toute cette adaptation aux réactions de la population, docteur Alain Eppelboin, et c'est justement là qu'arrive le travail des anthropologues, peut-être plus encore que pour d'autres pathologies, parce qu'aussi, pour ces équipes qui viennent de l'international, c'est pas toujours évident d'appréhender d'autres réalités de santé, d'autres réalités communautaires.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a effectivement à tenir compte des systèmes d'interprétation de la maladie, des rituels funéraires, de s'y adapter. Mais il y a aussi, c'est quand même la majorité, faire passer les droits des malades, les droits des gens, donner des conseils qui sont qu'on serait capable de suivre soi-même si on était sur le terrain. Et quand vous me faites l'honneur de venir à votre émission, à chaque fois, je rappelle que moi, si j'étais mère ou père de famille dans ce type de situation, toute la famille serait équipée d'un petit morceau de savon dans une feuille de manguier et une bouteille d'eau, parce que l'eau, elle peut manquer, et qui fait que au cas où j'ai eu contact avec quelqu'un qui est fiévreux, au cas j'ai un parent qui revient et qui est fiévreux, que je ne peux pas ne pas toucher, je vais me laver les mains avec de l'eau, du savon, voire j'aurai quelques gants, voire j'aurai des pochettes plastiques pour me protéger. Donc il y a les mesures pour tout le monde, mais il y a une intelligence des mesures à avoir qui me permet de me sauver et de sauver mes parents.
C'est pas la peur qui nous protège, mais c'est bien des petites mesures très concrètes qu'on rapporte à la maison.
Le professeur Mouyembe indique bien comment il est un miraculé, parce qu'il avait du sang sur les mains, mais il s'est lavé les mains immédiatement avec du savon lors des épidémies premières. Et c'est surtout ça, c'est un survivant.
Donc, toutes ces questions, justement, on voit bien l'importance du côté quotidien de la maladie, de la vie communautaire, mais il y a aussi, là en particulier, ce contexte politique, et c'est ce qu'on ressent parfaitement ces dernières semaines, avec toute une série d'événements. Vous êtes là pour nous en parler, Sonia Rollet, du Service Afrique de RFI. Sonia, on va faire un retour en arrière, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière émission de Priorité Santé qu'on avait consacrée au sujet, avec justement une date qui a marqué les esprits, le 17 juillet, c'est ce jour, Sonia, où l'OMS décide de décréter l'urgence sanitaire mondiale.
Alors, ça faisait plusieurs mois que c'était en discussion, et malgré la multiplication du nombre de cas au Congo, une épidémie hors de contrôle, le passage des patients contaminés congolais en Ouganda, eh bien, l'OMS y a été toujours refusé. Donc, l'annonce intervient un an après le début de l'épidémie, alors qu'un pasteur de Butembo qui avait été contaminé s'était rendu à Goma, donc cette ville frontalière dont vous parliez, ville frontalière du Rwanda, où il y a plus d'un million d'habitants, et le risque d'une propagation aux pays voisins devient trop élevé, explique alors l'OMS. Alors, si le président Félix Tshisekedi se félicite immédiatement de cette annonce, les sociétés civiles à Beni, Butembo, Bounia ne comprennent pas pourquoi il a fallu aussi longtemps pour faire cette déclaration, et surtout alors que les populations dans ces foyers de l'épidémie ne voient pas la fin de leur calvaire. Alors, les sociétés civiles s'inquiètent aussi de voir la communauté internationale continuer de prendre le pas sur les services de l'État congolais et surtout sur le personnel de santé locale. C'est une préoccupation constante depuis le début de l'épidémie. Leur communauté peine aussi à accepter l'arrivée de tous ces 4x4 flambants neufs et de ces millions déjà dépensés sans obtenir les effets escomptés.
Et puis vont venir ensuite une série de changements là. À Kinshasa, la capitale, le ministre de la Santé, le docteur Oli Ilunga, quitte ses fonctions, c'est le 22 juillet. Il serait d'ailleurs depuis interdit de sortie du territoire congolais. Et puis c'est une figure historique de la lutte contre la maladie, le professeur Jean-Jacques Mouyembe, qui lui devient directeur de la coordination nationale de la riposte.
Alors d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que le président Félix Tshisekedi, à ce moment-là, décide de reprendre le contrôle de la coordination de la riposte. Jusqu'ici, elle revenait directement du ministère de la Santé, le docteur Ilunga se sent complètement désavoué. Et c'est la raison qui, dit-il, l'emmène à démissionner en pleine crise. Alors il écrit une lettre quand même au nouveau chef de l'État pour le mettre en garde contre toute une série de dangers, et notamment de marginaliser le système de santé congolais ou d'introduire un nouveau vaccin dont le mode d'administration serait trop compliqué et dont les effets ne seraient pas avérés. Et c'est cette lettre, bien, qui fait réaliser à la population congolaise que plusieurs essais cliniques sont en cours au Congo. Les mouvements citoyens comme la Lucha demande alors des explications. Certains de ces essais ont pourtant lieu depuis mai 2018. La présidence a un certain nombre de reproches à faire à l'ancien ministre de la Santé de ne pas avoir su justement faire sentir la présence de l'État sur le terrain, de s'être limité aussi à compter les morts, c'est ce qu'ils disent. Et depuis, le docteur Oli Ilunga a aussi aussi des démêlés avec la justice, vous le soulignez. Il est interrogé dans le cadre de suspicion de détournement de fonds, dans le cadre de la riposte, mais ce dernier nie évidemment les faits.
Alors, le 7 août, hein, une autre date, là, ce sont 4 médecins congolais. Ils sont accusés d'être impliqués. On s'en souvient, on en avait parlé, hein, toutes ces violences au déclenchement de l'épidémie. L'assassinat d'un confrère camerounais de l'OMS était en avril. Et 3 de ces médecins ont été arrêtés. Selon vos informations, Sonia, ils ne sont toujours pas libres.
Oui, c'est une drôle d'affaire, hein. L'ordre des médecins de Butembo avait immédiatement menacé de faire grève si ces 3 médecins n'étaient pas libérés, car ce sont des natifs de cette ville, parmi les médecins même les plus connus, et ils travaillaient pour la riposte. Bref, le conseil de l'ordre n'arrivait pas à croire qu'ils puissent être impliqués dans l'assassinat de ce médecin. Alors, il faut savoir que contrairement à Beni, un peu plus habitué à la présence humanitaire, à Butembo, le ressenti contre la coordination de la riposte a été le plus fort. Depuis le mois de février, des groupes armés avaient multiplié les attaques, en affirmant d'ailleurs lutter contre Ebola. Ils attaquent donc ces centres de la riposte, dont celui où se trouvait le docteur Richard Muzoko, et donc tue ce médecin de la riposte. Selon l'auditeur général de l'armée congolaise, certains des assaillants qui ont été arrêtés auraient accusé ces médecins de les avoir financés. Le général Mukuntu prend soin à l'époque de préciser que cet argent avait été versé pour attaquer ce centre et non pour protéger la riposte, parce qu'il faut le dire, l'insécurité est telle dans cette partie du Congo que c'était une pratique courante pour lesquelles d'ailleurs des dizaines de personnels de soignants avaient été arrêtés, de donner de l'argent aux groupes armés pour être protégés. Donc ils sont également accusés, ces médecins, d'avoir tenu 2 réunions et d'avoir appelé à chasser leurs collègues étrangers de la riposte, donc les Congolais qui viennent d'ailleurs, comme d'ailleurs les étrangers. Mais ces médecins, évidemment, démentent toutes ces accusations et parlent d'une cabale, difficile à ce jour de discerner le vrai du faux.
Alors, énormément de questions, hein, difficile de répondre aux questions, on l'a compris. Et puis, derrière tout ça, il y a aussi des polémiques là sur la santé, sur les traitements, sur la vaccination. On a par exemple entendu le ministre démissionnaire en parler. Et on va revenir tout à l'heure sur le vaccin précisément avec vous, professeur Fontanet. Sonia Rollet, côté prise en charge, hein, le professeur Muyembe à la mi-août a tenu des propos très optimistes, lui, au sujet de nouvelles molécules. Un traitement qui, hein, selon ce sont ses termes, réduit sensiblement le taux de mortalité. Il parle même d'un tournant.
Ah oui, alors il faut dire que le professeur Muyembe a toutes les raisons d'être content puisqu'il est le détenteur du brevet de l'une de ces molécules, le MAB-114. Il l'a développé avec l'un de ses confrères pour le compte des États-Unis, notamment avec l'appui de l'Institut National de la Santé américain. Alors c'est vrai que les résultats des premières molécules qui avaient commencé à être utilisées autour de la grande épidémie de l'Afrique de l'Ouest, eh bien n'avaient pas eu les effets escomptés, en tout cas c'est ce qu'on nous dit. Au Congo, depuis septembre 2018, un nouvel essai clinique est lancé, donc pour ce MAB-114 et pour le REGN-EB3. Et un an plus tard, eh bien, sur les quelques 500 personnes auxquelles l'un ou l'autre de ces anticorps a été administré, on nous dit que la mortalité est tombée à 29% avec le REGN et à 34% pour le MAB-114. Et pour les personnes sans aucun traitement, c'est ce que nous disent, hein, ceux qui font la promotion de ce médicament, le taux de mortalité est compris entre 60% et 67%. Mais il faut bien le dire que ça dépend beaucoup du moment où les soins sont prodigués, car plus cette maladie est prise en charge tôt, et bien plus les chances de survie sont fortes, Caroline.
Merci beaucoup, Sonia. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit depuis le début de cette émission, hein, c'est qu'en cas de symptômes, allez au plus vite dans un centre de soins, parce que les premiers jours sont proprement décisifs. Vous nous le disiez tout à l'heure, professeur Fontanet, c'est très important.
Oui, c'est très important. Il y a dans ce même essai, hein, pour des patients qui auraient été pris en charge très tôt, sans traitement, on arrive à peu près à 30% de décès. Et pour ceux qui auraient reçu les 2 molécules qui ont marché, on descendrait même à 10% de décès seulement. Donc, ce qu'il faut aussi dire, c'est que c'est rajouter à ces molécules une prise en charge globale des patients, autour notamment de la réhydratation, qui est très importante dans le contexte de la maladie Ebola, où il y a des diarrhées qui vraiment vident les patients de leur liquide. Et cette réhydratation, elle est très difficile à mettre en place. Dans le contexte de l'épidémie en Afrique de l'Ouest, il y a quelques années, le contact avec chaque patient était limité à 1 à 2 minutes pour le personnel soignant, parce qu'ils étaient équipés de ces combinaisons de protection. Ils ne pouvaient les garder que 40 minutes sur eux, et ils avaient 40 patients à voir. Et donc là, il n'était pas possible de faire des soins vraiment appropriés pour un patient qui relève presque de la réanimation. Alors que maintenant, avec des nouveaux équipements, des nouvelles approches, des espèces de bulles où on peut avoir être en contact des patients sans avoir besoin de s'équiper soi-même. Et puis tout ce qu'on a appris sur la prise en charge des patients Ebola, on se rend compte que déjà ce qu'on appelle le traitement symptomatique, avec une très bonne réhydratation, permet quand même de sauver beaucoup de patients. Et puis se rajoute l'effet spécifique de certaines molécules. Et plus les patients sont traités tôt, plus leurs chances de survie sont importantes.
Professeur Fontanet, spécialiste des maladies infectieuses et tropicales, docteur Epelboin, je me tourne vers vous, vers l'anthropologue. On a parlé justement de ces bulles de traitement. C'est quelque chose qui est important aussi, le visuel. Ne pas dissimuler les malades, ne pas dissimuler les gens quand ils sont justement concernés par Ebola, parce qu'on dit, on disait, on cache les malades, voire on les soustrait, on les fait disparaître. C'était quelque chose que l'on entendait dans la communauté.
Oui, pourtant, il y avait des progrès qui avaient été faits. C'est-à-dire, l'accueil des familles des malades dans les centres de traitement était prévu. Des téléphones étaient mis à disposition des malades pour communiquer avec eux. Mais là, effectivement, ces espèces de bulles de tente transparente permettent d'être au chevet de ces... On ne peut pas toucher, bien sûr, mais permettent d'être au chevet. Et là, il y a une dimension d'accompagnement psychologique qui est complètement essentielle et qui aide à tenir, qui aide à survivre, mais malheureusement, qui n'est pas suffisante pour casser les rumeurs comme quoi il n'y aurait pas une bonne alimentation, il n'y aurait pas une bonne hygiène, il n'y aurait pas des bons médicaments dans ces centres. Bon, il peut toujours y avoir à l'occasion un petit dysfonctionnement, mais globalement, l'hospitalité dans ces centres s'est améliorée en tenant compte justement des goûts des patients, en leur donnant des aliments qui correspondent à leur appétit et pas les sempiternelles boîtes de petits pois ou autres produits inacceptables.
Parce que si le quotidien, c'est important, surtout quand on est malade.
Le sommeil, le sommeil, la prise en charge de la douleur, et j'espère qu'on continue aussi à mettre à disposition des téléphones, parce que pouvoir téléphoner à des gens qui ne peuvent pas déplacer, à une grand-mère, c'est quelque chose d'absolument essentiel dans le soutien.
On va donner dans quelques instants la parole aux auditeurs, professeur Arnaud Fontanet. On a parlé tout de suite avec Sonia Rollet du vaccin, du traitement, des informations et énormément d'espoir qui naît sur place des populations. On le comprend bien, quand on a peur d'une maladie, on a tout simplement envie d'être soigné, on a envie, on ne parle pas de traitement miracle, mais c'est ce dont rêve tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur ces traitements, sur ces vaccins? Est-ce que c'est sûr? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est quelque chose à encourager?
Lorsqu'on en a appris de l'épidémie d'Afrique de l'Ouest, c'était que un vaccin qui avait été testé dans cette épidémie en Guinée était efficace. Et il a été possible, au cours de cette épidémie, de déployer ce vaccin. Alors, il est donné dans une stratégie qu'on appelle en nano, qui fait que les contacts et les contacts des contacts des patients sont vaccinés. Quand les personnes ont été vaccinées, la protection est supérieure à 95%. Et si même ils étaient infectés parce que bon, ils étaient des échecs de vaccin, leur mortalité serait plus faible. Donc c'est un vaccin dont on a aujourd'hui, on sait qu'il marche et qu'il est efficace. En revanche, ce qui est très difficile, c'est d'arriver d'identifier les contacts et les contacts des contacts. Et là, il y a beaucoup de trous dans la raquette, si j'ai envie de dire, et que malheureusement, parce que on n'arrive pas à vacciner tous les gens qu'il faudrait vacciner, eh bien l'épidémie continue à se propager. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même déjà 200 000 personnes qui ont été vaccinées depuis le début de l'épidémie, ce qui est considérable. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce qu'il ne faut pas les vacciner au-delà, ne pas se limiter à ces contacts et contacts des contacts, mais vraiment vacciner de façon préventive les régions les plus touchées et l'ensemble de la population. Mais pour ça, ça demanderait des doses considérables de vaccins qu'il est difficile d'acheminer. Alors, Merck, qui fabrique le vaccin qui est utilisé aujourd'hui, dit qu'il est capable d'augmenter ses doses et en discussion avec l'OMS. Et c'est là qu'est arrivé le deuxième vaccin de Johnson & Johnson, qui lui a été testé. On sait que globalement, il n'est pas dangereux pour la santé. On sait qu'il produit une réponse immunitaire. En revanche, on ne sait pas s'il protège. Mais parce qu'on a besoin de plus de vaccins, peut-être faudrait-il l'utiliser, et c'est toute la discussion est en cours.
Et c'est pas décidé.
Pour vacciner des populations qui, elles, n'ont pas été directement en contact des patients, mais dont on sait qu'elles pourraient quand même bénéficier d'une protection.
On va tout de suite, si vous le voulez bien, donner la parole à nos auditeurs de la région concernée. Région de Boutembo, où l'on vous retrouve. Bienvenue. Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Alors, vous êtes là à titre de témoin, hein, auditeur témoin de RFI sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous décrire la situation à Boutembo?
Oui, je dirais moi aussi qu'il y a vraiment beaucoup de avancées significatives. Hein, parce que depuis que la maladie a commencé, je ne dirais pas que la population a contribué pour éradiquer cette maladie. Il y a vraiment une résistance énorme à cause de la mauvaise politique des politiciens de Boutembo. la maladie, on n'a pas vraiment réussi à la contrer. Mais actuellement, avec la contribution de la communauté religieuse, certaines ONG locales et certains chefs coutumiers, je tiens à préciser que la riposte à intégrer les chefs coutumiers dans leur travail, il y a vraiment des avancées significatives. Et si ça continue dans cette voie, moi je crois que l'Ebola ne sera qu'une histoire.
Une histoire ancienne. Vous constatez donc qu'il y a vraiment une amélioration. Vous parlez d'initiatives, de communautés. Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement, justement, pour améliorer cette situation?
Vous savez, il y avait une résistance énorme parce que certaines personnes étaient jaloux de l'argent qu'ils recevaient à la riposte. Et dès qu'on les a fait intégrer dans la riposte, ils reçoivent quelques argent et ça va, ils commencent à mieux sensibiliser les gens. Et à l'église, on a dit des lavabos pour que quand quelqu'un vienne, il faut se laver les mains avant d'entrer à l'église. Auparavant, c'était difficile parce que la population même refusait de se laver les mains. Mais actuellement, la population a compris que chez eux qui sont victimes, ils commencent même à négocier qu'il y ait des lavabos à des églises ou à des marchés.
Donc c'est très important de prendre des décisions aussi simples que celle d'installer des lavabos. Expliquer aux gens que se laver les mains, c'est toujours, en cas d'épidémie, une des toutes premières médecines et la chose la plus efficace. Merci beaucoup, bienvenue. On a besoin justement de ces témoignages très concrets pour savoir ce qui se passe sur le terrain. On va prendre des informations maintenant du côté de Bounia, où l'on retrouve Émile. Bonjour Émile.
Bonjour madame et bonjour à tous les auditeurs.
On est à votre écoute, alors dites-nous comment ça se passe du côté de Bounia.
Madame, je voudrais du côté de Bounia, c'est d'abord une ville qui n'a pas été vraiment très sérieusement touchée par cette épidémie. Mm-hmm. Mais il y avait quand même eu quelques cas qui ont été confirmés. Et jusque-là, la situation est déjà maîtrisée parce qu'à ce moment où je vous parle, et on n'a pas confié notre camp. Mais cela a plongé un peu la population dans une distraction, même les équipes de la riposte, à tel point que les mesures d'hygiène ne sont plus tellement appliquées au strict respect, comme ça pouvait se faire, parce qu'au marché, les gens y entrent, sortent comme ils peuvent, et les gens qui s'allient normalement dans les églises, on a trop peu, mais il y a aussi une sensibilisation qui se fait au niveau des églises, dans des radios locales, mais personnellement, je trouve que cette sensibilisation ne suffit pas, parce que certaines personnes ne suivent pas de la radio, il y a certaines qui ne partent pas dans des églises. Je souhaiterais peut-être une sensibilisation porte par porte, parce que ça donnera à quelqu'un qui émet encore des doutes sur cette maladie, l'état de poser cette question directe, et la personne l'explique, ça pourra l'aider à lui faire comprendre. Mais c'est bien pas la situation était maîtrisée, même sous police, les agents de santé disent, dès qu'ils ne veulent pas qu'on les dise au public.
Donc vous préconisez, vous, le porte-à-porte pour aller directement chez les gens et afin que la vigilance contre la maladie ne baisse pas, toujours en poursuivant ces règles d'hygiène très strictes et très importantes pour éviter la contamination. Alors on comprend bien qu'il peut y avoir des initiatives locales qui peuvent être très 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 importante et on va en donner une illustration tout de suite. Hein. Parmi les acteurs qui s'engagent sur le terrain, le club RFI Goma. On va donner tout de suite la parole à Zachary qui est à la tête du projet conscientisation sensibilisation sur l'appropriation communautaire des actions gouvernementales et humanitaires. Zachary en ligne avec nous à Goma. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette campagne de sensibilisation, mais très concrètement, hein, pas sur l'esprit, mais sur les actes? Qu'est-ce que vous organisez comme événement?
Notre projet est venu de l'esprit où il y avait une certaine résistance dans la riposte Ebola et beaucoup de renards qui ont pris place à la place de la vérité sur cette maladie. Alors, c'est ainsi que nous, comme Club RFI Goma, nous nous sommes dit qu'il fallait quand même qu'on sensibilise la population, qu'on sensibilise les communautés sur ce que prévenir et comment y arriver. Alors, pour y arriver, le Club RFI Goma a mis en place des outils. Évidemment, c'était avec l'appui et en partenariat d'autres organisations, comme l'ambassade de la France en RDC qui nous aide, et l'OMS qui nous accompagne dans toutes nos activités, mais aussi la division provinciale de la santé au niveau de Doma. Alors, parmi nos outils que nous utilisons, nous avons opté pour les sensibilisations de masse par les théâtres participatifs. Ces théâtres sont des théâtres qui passent directement les messages, qui démontrent réellement ce que les gens doivent faire pour prévenir la maladie, mais aussi qui invitent les gens à l'appropriation communautaire. Il faut que les gens acceptent le meilleur remède, comme le disait le docteur Mouyembe, le meilleur remède pour la maladie à virus Ebola. Évidemment, il y a les médicaments, l'aspect technique, mais aussi il faut d'abord que la population accepte que cette maladie est une réalité. Il faut que la population accepte d'aller elle-même au centre de traitement Ebola ou alors d'aller tout droit dans un hôpital pour se faire consulter. Le grand défi est que la maladie à virus Ebola, ses symptômes sont les mêmes symptômes que pour tant d'autres maladies. Alors, ça fait qu'il y a une certaine résistance. Les gens te disent, c'est parti, c'est je vomis, je dois aller au centre de traitement Ebola. Il y a beaucoup de rumeurs aussi qui circulent, que ce soit sur les vaccins, que ce soit sur
Ebola. Zachary, on entend la ligne qui se dégrade au fur et à mesure que vous nous parlez. On essaye de vous redonner la parole, attendez. Parce que là, ce qu'on a entendu, ces rumeurs sur le vaccin, ces rumeurs qui circulent. Qu'est-ce que vous faites, Zachary? Qu'est-ce que vous faites justement pour essayer de couper ces rumeurs, pour essayer de les éradiquer?
Ce que nous faisons, c'est que nous sensibilisons davantage la population à travers beaucoup d'outils. Et entre autres, nous avons mis en place des bandes dessinées, nous avons mis en place des vidéos. Et nous faisons des cadres participatifs, des formations, des conférences, où nous essayons de montrer à la population réellement que ce que les gens de la Riposte vous disent, ce sont des vérités et de prendre la maladie.
On n'entend pas bien ce que vous nous dites, mais ce qu'on a compris, l'essentiel, c'est de porter un message qui correspond exactement à ce que peuvent comprendre les populations locales. On s'adresse à eux parce qu'on fait partie du groupe, parce qu'on leur parle dans leur langue et qu'on s'adresse à leurs propres références. C'est quelque chose d'essentiel, docteur Alain Epelboin, c'est de ne pas avoir un discours comme ça formel, qui ne parle pas aux gens, de les toucher au cœur, puisqu'on parle de questions qui mettent en jeu la vie, qui mettent en jeu la vie de la famille.
Oui, il faut que les interlocuteurs soient proches culturellement, linguistiquement, bien sûr, mais soient proches également par l'empathie. Et on n'insistera jamais assez sur le fait que, vraisemblablement, comme d'habitude, les femmes ne sont pas suffisamment mobilisées. Et je ne parle pas des femmes intellectuelles ou des femmes politiciennes. Je parle de la voisine qui est repérée, pas des leaders, mais des personnes estimées dans la communauté et les appuyer. Et leur force de conviction va être tout à fait considérable. Par ailleurs, à l'heure actuelle, le bouc émissaire de service qui apparaît effectivement, c'est le vilain qui s'enrichit avec la riposte, mais c'est évident que on n'en parle pas, mais que c'est aussi l'occasion de régler des comptes entre voisins, entre quartiers, entre familles et belles familles, avec des accusations de sorcellerie réciproque en expliquant que si les gens sont morts dans la famille, c'est parce qu'on a bénéficié du sang métaphorique pour construire son pouvoir politique. Donc là aussi, il faut bien penser qu'une épidémie, c'est une occasion pour tout le monde, depuis les autorités internationales, les autorités nationales et moi-même. Il y a une façon d'utiliser l'épidémie pour régler ses comptes. Et ça doit être laissé de côté.
Et il y a aussi autre chose, professeur Arnaud Fontanet, on l'a dit, vous êtes spécialiste de ces maladies. On traite Ebola, mais en même temps, il y a le palu, il y a la tuberculose, il y a la rougeole, il y a la drépanocytose, il y a les maladies tropicales négligées qui, dans ces régions, ne sont pas toujours bien prises en charge. Et les gens se demandent pourquoi tout ça pour Ebola et pourquoi, finalement, pas grand-chose pour la rougeole du petit dernier.
Alors, ce qui est vrai, c'est que si on fait des comptes, hein, et qu'on regarde de quoi on meurt finalement, ce qu'un épidémiologiste fait volontiers, mais on se rend compte qu'il y a un décalage énorme entre les décès quotidiens dus à des maladies comme sida ou paludisme en Afrique, hein, où on est à 500 000 morts par an, et puis des épidémies comme Ebola qui, à terme, finalement, vont tuer 2000 personnes au près d'un an. Après, c'est pas comparable. Hein. On a un contexte d'une maladie en soi assez effrayante par le taux de mortalité très élevé qu'elle a, par le caractère explosif, par le risque de dissémination, par aussi la symptomatologie des fièvres hémorragiques, hein, qui quand même marquent des esprits. Et à côté de ça, on a des maladies quelquefois beaucoup plus silencieuses, comme le sida ou les hépatites virales, qui ont des incubations de 10, 20, 30 ans, et pour les hépatites virales, des manifestations cliniques quasiment absentes. Donc on peut pas raisonner en termes comptables, mais c'est vrai qu'en revanche, des maladies comme Ebola, elles vont survenir dans des endroits où les systèmes de santé sont en général faibles, hein, où la prise en charge des patients est difficile à organiser parce qu'on est dans une région très pauvre, et que la riposte à Ebola, mais à l'ensemble des maladies que vous avez citées, passera d'abord par un renforcement des systèmes de santé, et là qui permettra de toucher l'ensemble de ces maladies. Donc là, la clé à terme, c'est renforcement des systèmes de santé, de surveillance, qui permettront effectivement, éventuellement, le contrôle d'une maladie comme Ebola, mais qui bénéficieront à beaucoup d'autres maladies.
On a aussi compris, hein, toute l'importance de la transparence, de l'implication des acteurs communautaires, justement, que les grandes organisations ne restent pas dans l'entre-soi. S'adapter à la riposte, professeur Fontanet, ce sera ma dernière question. Est-ce que finalement, chacune de ces épidémies ne constitue pas une source d'enseignement pour vous, les soignants, et puis aussi un terrain de recherche absolument extraordinaire, et ça vaut d'ailleurs pour l'anthropologie également?
Alors effectivement, on apprend beaucoup de chacune de ces épidémies, mais je pense qu'on réalise aussi qu'on a encore besoin d'apprendre plus encore. Hein. Alors malheureusement, ça se fait à l'occasion d'épidémies et dans le contexte de mortalité et de douleur qui a été évoqué pendant cette émission. Pour nous, c'est très important à la fin d'une épidémie de faire le bilan et de dire qu'est-ce qu'on a bien fait et où est-ce qu'on a été mauvais. Et on a appris beaucoup de l'épidémie de Guinée, notamment. C'est là où, notamment, tout ce qui était autour des rites funéraires, des enterrements dignes et sécurisés, hein, on s'est rendu compte que de vouloir frontalement dire aux gens arrêtez vos rites funéraires, ne lavez pas les corps, c'est dangereux pour vous.
C'était un petit peu le côté « nous, on sait, vous ne savez pas hein. ».
Voilà, ça marche pas. En revanche, faire intervenir des anthropologues, comprendre avec les populations qu'est-ce qui est important dans ces rites funéraires et comment rendre ces rites funéraires possibles et ce qu'on appelle aujourd'hui dignes et sécurisés, a été une des solutions qu'on a appris de l'épidémie de Guinée et qu'on applique aujourd'hui en RDC. Et c'est ça, c'est ce bilan post-épidémique qui nous permettra chaque fois, d'avoir des avancées médicales. Hein. On sait aujourd'hui des traitements qui marchent mieux, on comprend la prise en charge globale du patient, on a des vaccins qui fonctionnent, mais aussi une compréhension plus intime de la maladie et de ses ressorts en population qui nous permettront de nous agir la prochaine fois.
Une trentaine de secondes, ça va être très compliqué, docteur Eppelboin. Qu'est-ce que vous a appris cette dernière épidémie depuis un an?
Il y a cette histoire du terrorisme qui est vraiment
le facteur nouveau,
une violence inédite. Sinon, pour le reste, c'est toujours le même scénario. Et les nouveaux intervenants réinventent l'eau chaude à chaque fois. Mmh. Et en ce qui concerne les anthropologues, ben une fois qu'on est un peu rassuré, on les oublie. Et c'est ensuite, quand on est en situation d'aporie, c'est-à-dire situation d'impuissance, que brusquement on se dit « Ah ben il faudrait peut-être aller voir les chefs coutumiers, il faudrait peut-être aller, on se souvient des conseils qu'ils ont donnés. »
Alors, message de soutien aussi qu'on va adresser dans Priorité Santé à toutes celles et ceux qui s'engagent dans cette lutte, dans cette riposte. Bien sûr, les personnels de santé, tous les acteurs, communautés qui sont sur le terrain et font de leur mieux, justement, pour lutter contre Ebola. On remercie nos invités en studio, professeur Arnaud Fontanet, chef de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur, et vous, docteur Alain Eppelboin, médecin anthropologue au CNRS. Et puis, on s'excuse pour parfois la mauvaise qualité des liaisons téléphoniques. Nous n'y sommes pour rien, mais on est poli quand même. Très bonne journée. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. Ophélie Lassène, Juliette Brault, Victor Hull. Aujourd'hui, Laurence Naud. Lundi, nous allons parler de la migraine. Diagnostic, prise en charge de la douleur. On attend vos messages sur la page Facebook de l'émission. Et au 33 1 84 22 75 75, on se retrouve lundi. D'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.